Nous sommes arrivés à Actes chapitre 14. C'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Enfin, il y a deux parties de notre message aujourd'hui. Il y a la parole divine et l'instrument humain. Je ne savais pas comment dire pour cet instrument. Presque tous les commentaires emploient le mot missionnaire, parce qu'il y a des voyages missionnaires. Paul et Barnabas étaient les premiers missionnaires. Savez-vous que le mot missionnaire, ni mission, ni aucune forme de missionnaire n'existe pas dans la Bible? C'est un mot qui est employé, et normalement, qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez missionnaire? Vous pensez à quelqu'un qui a quitté son pays, n'est-ce pas, qui est parti pour donner l'évangile à un pays étranger. Peut-être c'est ça ce qui arrive. Il y a différentes choses qui arrivent à l'esprit, mais normalement, à moins que votre église vous avait envoyé exprès dans un autre pays, vous ne vous voyez pas comme un missionnaire. C'est pour cela que j'ai refusé aujourd'hui d'employer le mot missionnaire. Je pensais prédicateur. Mais quand vous pensez prédicateur, vous pensez à la personne appelée à se mettre derrière un pulpitre pour donner la parole de Dieu. Ce n'est pas vous, peut-être. Donc, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas prédicateur. Qu'est-ce que j'aurais pu appeler? Parce que ce que nous voulons voir aujourd'hui, ils ne sont pas juste un instrument particulièrement appelé, bien que ça soit le cas, avec Barnabas et Paul. Mais ce sont des qualités de caractère que chaque chrétien... On a un mot en anglais qui n'existe pas en français, donc il faut plusieurs mots. Faiseur de disciples. Dieu nous a fait disciples à notre conversion pour que bientôt, assez bientôt, on devienne des faiseurs de disciples aussi. Et si vous êtes un parent, mère ou père de la famille, vous avez été appelé, primordial, de faire disciples de votre famille. Et donc, ça va plus loin que cela, dans différents contextes. Donc, c'est peut-être ça le mot que je leur ai choisi. Faiseur du disciple, c'est un peu lourd. Je terminais juste par dire le serviteur de Dieu. La parole divine, mais aussi en conjonction avec l'instrument humain qui porte la parole de Dieu. Et avant de montrer quoi que ce soit sur l'écran, je voudrais que nous voyions dans notre Bible, et nous allons lire le passage à partir du verset 14 avec quelques commentaires pour que nous soyons situés contextuellement dans la situation où se trouvaient Barnabas et Paul. Donc je vais vous montrer sur l'écran la carte encore une fois qu'on a vue plusieurs fois déjà. Rappelez-vous, ils avaient commenté à Antioche. Sont allés en Cypre, ils sont passés quelques mois, ils sont partis dans le sud de la Turquie d'aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à Antioche, où on a vu la dernière semaine, ils ont été chassés. Quand ils arrivaient à la porte de la ville, ils ont enlevé le sandal, ils ont secoué la poussière, comme signe, nous avons fait notre travail ici, c'est fini. Dieu maintenant nous envoie quelque part d'autre. Ça signifie aussi que vous l'avez refusé. La responsabilité ne reste plus sur nous, mais sur ceux qui ont entendu le message et n'ont pas accepté le message. Et puis, aujourd'hui, ils vont aller à plusieurs villes ici. Nous allons voir Icône, Lystre, Derbe et Perbe. À partir du verset premier. Ok, maintenant, vous pouvez Regardez dans votre Bible. Alors, si vous avez une Bible et la personne à côté de vous n'en a pas, partagez le vôtre avec lui. Ça serait une bonne idée pour que tout le monde regarde. La lecture sera assez longue, mais assez intéressante, j'espère. Icon, Paul et Barnabas, parce que, savez-vous, verset 51 du chapitre 13, Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds. Ils allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Les gens qui restaient, même persécutés, remplis de joie, remplis du Saint-Esprit, mais à Icône, verset 1er, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue. On commence à comprendre, ça c'est leur habitude. Dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Je ne l'ai pas compté moi-même, mais j'étais surpris de lire dans un commentaire que ça fait la 14e fois depuis Pentecôte, où il est dit qu'une multitude de gens croyaient à la suite de la prédication de l'Évangile. C'était étonné de voir ça. Je vous laisse à compter vous-même pour voir s'il avait raison ou pas. Mais 14 fois déjà, on n'est que à chapitre 14. Donc, beaucoup crurent, une multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent pas, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. L'idée n'est pas, ils n'étaient pas passivement non-croyants. Ils étaient activement non-croyants. Ils ont fait une décision de ne pas croire. Donc, ils sont contre. Verset 2, première partie, des gens ont cru. Deuxième partie, ils sont contre. Personne n'est laissé neutre quand ils écoutent l'Évangile. Ils vont croire ou ils vont se mettre positionnellement contre, ce qui était leur cas. Verset 3, ils restèrent cependant là, malgré la persécution, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rend des témoignages à la parole de la grâce, et qui permettait que ils le fassent parmi qui, Dieu, qui leur permettait, qui se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant en connaissance, ils ont appris la conspiration, ils se réfugièrent dans les villes de Lacaonie. Lacaonie. Ils avaient leur propre langue. On verra tout à l'heure. À Lystre et à Derbe. Donc, vous voyez sur la carte. Ils ont quitté Iconium, persécuté, ils sont maintenant ici. C'est pas trop loin, une vingtaine de kilomètres. Un peu plus. Et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, ici, à Lystre, se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, ayant les regards fixés sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Il ne se lève pas, il a bondi. Il bondit, pardon. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyconienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Mercure était le dieu de parler. Jupiter était un dieu qui était immense, qui parlait de la grandeur physique de quelqu'un. Apparemment, Barnabas était quelqu'un de grand et Paul était quelqu'un avec le don de parler. Évidemment, Paul, c'était le porte-parole. Verset 13. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec les bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule et s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces vaines choses pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui est dedans. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dépensant du ciel de la pluie et les saisons fertiles, et vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Mais à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors, survint de Antioche. Rappelez-vous Antioche. Mauvaise expérience. Des gens d'Antioche arrivent à Icône et des Juifs gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et je vais continuer jusqu'à la fin du chapitre, bien que c'était ma marque au début. Le lendemain, il partit pour Derbe. Le lendemain, attention, lapidé, laissé pour mort. Le lendemain, il part pour Derbe, avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié, jeûné, ils recommandèrent au Seigneur qui ils avaient cru, traversant ensuite de la Pisidie, ici, de la Pisidie, vindre Pamphylie. Pamphylie, c'est, je ne vois pas sur la carte, j'aurais dû voir en avance, à peu près dans la même région. Ils annoncèrent la parole à Pergue, on a vu Pergue, descendirent à Attalie, et de là, ils embarquent pour Attalia, pour Antioche, leur église où ils sont membres. Ils embarquent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Et le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul et Barnabas a pris terme. Après leur arrivée, ils convoquent l'Église, ils racontent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et puis, ils deviennent des membres normaux encore, pendant longtemps. Ils demeurent assez longtemps avec les disciples. 2 ans depuis ça, 1500 kilomètres à peu près, et le premier voyage est fini. Il y a beaucoup de manières de voir ce passage. que nous avons devant nous. Et je l'ai divisé en deux. La parole de Dieu, l'instrument humain, la parole divine, l'instrument humain, qui se connecte pour que la grâce de Dieu soit manifestée à travers le monde. Et l'apôtre Paul, nous voyons dans le premier verset le thème que tous les faiseurs de disciples devraient utiliser. Dieu nous a appelé chaque chrétien, une fois être informé, équipé à minimum, de partager cette grâce aux autres. Une des raisons pour lesquelles à 12h30 tous les mercredis, quand les étudiantes sont ici, on fait un petit repas et on partage. On partage la grâce de Dieu dans notre vie la semaine dernière, les passages bibliques que nous avons lus, qui est toute la grâce et nous avons parlé. L'apôtre Paul et Barnabas, quand ils ont éduqué, formé ses disciples pendant 8 jours, depuis le matin jusqu'à le soir, entre 2 sabbats, le sabbat où ils avaient annoncé l'évangile, qui attirait l'attention de tout le monde, qui demandait, qui insistait qu'ils reviennent le sabbat prochain, et pendant le sabbat, entre ces 2 sabbats, une grande formation eut lieu, beaucoup de gens suivirent Paul, rentrer le samedi après, une salle pleine de gens qui irritaient les Juifs, qui ne voulaient pas qu'il soit une amalgamation entre les 2 races comme ça. Ça, ils avaient déjà fait des concessions d'avoir la race Israël ici, et les croyants, non, les prosélytes derrière, mais chacun à leur place. Maintenant, tout le monde est ensemble. Et en plus, Paul va terminer par dire, je vais aller annoncer aux païens, je n'en serai plus chez vous les Juifs. Enfin, ça ne serait plus ma première responsabilité. Je vous aime, mais l'évangile est pour tous. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de groupe ethnique. Tout le monde viendront irrités par le grand nombre des païens qui viennent au Seigneur si facilement que cela, après toutes leurs œuvres, de se faire approuvé par Dieu, par garder la loi, et maintenant les païens viennent de gauche à droite, ils ne sont même pas obligés de se faire circoncire. Imaginez-vous le chaos qui va régner si on permet ça, on va lutter contre jusqu'à la mort, ce que faisait Paul avant sa conversion. Il était entièrement convaincu qu'il avait une libéralisation théologique qui allait terminer par ruiner les Juifs, qui n'était pas du tout le cas, mais il n'avait pas les yeux de voir autrement. Et donc, ils ont chassé Paul et Barnabas. Le travail, leur avait été terminé. Et ils sont maintenant en train de prêcher la grâce. Vous voyez cette phrase. Restez la dernière semaine. Restez attachés, c'était en verset 43, il leur exhortait de rester attachés à la grâce de Dieu. Une semaine de formation pour qu'ils restent attachés à la grâce qu'ils avaient entendue. Et maintenant, ils sont appuyés sur le Seigneur qui rend témoignage et qui aussi et rend témoignage à la parole de sa grâce. Ça, c'était leur message. Et quand nous témoignons aux autres personnes, notre témoignage spontané et préparé, cette grâce, je ne peux ouvrir ma bouche si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. La grâce de la parole de Dieu qui sauve une personne qui allait vers sa propre pénalité méritée à cause de ses crimes constants, flagrants, volontaires, tous les jours, Et pourtant, Dieu est prêt à gracier ceux qui viennent par la foi à lui. Tous les messages de Paul, la croix, la résurrection. La croix, la résurrection est l'œuvre de Jésus-Christ qui avançait vers cette grâce. Sans croix, il n'y a pas de grâce. On a vu ça un peu la semaine dernière. J'ai quelque chose à vous lire et j'aurais voulu mettre sur l'écran, mais avec ce système, j'avais pas assez de connaissances technologiques de mettre ça. Donc il vous faut écouter un commentateur qui parle du message que nous, les faiseurs de disciples, les chrétiens normal, que ce soit derrière un pupitre, que ce soit face à face dans votre chambre, dans les notes dortoirs, dans les villages. Et j'entends assez souvent les différentes discussions que un ou deux ou trois de vous avez avec vos copains incrédules. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de nous instruire. Un faiseur du disciple. Avant, il devient disciple, il faut certaines informations, il faut une minimum de connaissances, même de appeler le nom du Seigneur pour être sauvé. Et après ça, pour être sûr, cette personne qui crie vers le Seigneur, il faut qu'il reste dans la foi. Ce n'est pas notre intelligence de savoir si cette personne est vraiment convertie ou pas. Et nous le savons par expérience, certaines personnes semblent croire au début. Et la Bible enseigne, il y a certaines personnes, pour beaucoup de personnes, Satan vient, il arrache la semence, puis ça termine tout de suite. Pour d'autres, ça semble entrer, ils sont ravis de ce qu'ils entendent, ils sont très intéressés, ils sont très curieux, ils reviennent, ils posent des questions. Hélas, il arrive le moment de division. Ah, si ça c'est le cas, c'est pas pour moi. Et ils retournent. Ils n'ont jamais été sauvés. Donc, quand quelqu'un accepte le Seigneur, il faut jamais dire, ah voilà, ça y est, encore un point au ciel. Non, non, ce n'est pas comme ça. Dieu sait s'ils sont sauvés. Sauvés ou pas sauvés, on a besoin de prendre cette petite semence fragile et de le nourrir, de l'arroser. Et Dieu sait quand ça devient une vraie semence qui va durer pendant toute l'éternité ou pas. Nous ne le savons pas, mais nous avons la nécessité de continuer à éclairer les gens comme nous éclairons nous-mêmes. Le message qui était à la fois applicable et convaincant était la parole de sa grâce. Elle met l'accent sur le fait que tout ce que nous sommes, tout ce que nous espérons, tout ce que nous espérons jamais être, nous sommes débiteurs de la faveur de Dieu qu'il accorde à cause de l'œuvre de la mort de Christ. La parole de sa grâce doit être le thème des messagers de Dieu. Autant que le monde dure, il sera le thème des rachetés, même dans la gloire. Des rachetés pendant toute l'éternité vont crier avec joie, alléluia à Dieu pour sa grâce qui nous a sauvés. Et ça, c'est le message que nous partageons aux autres. Et puis, il y a une présentation de la parole de Dieu. J'étais très intrigué en lisant le premier verset et en cherchant de lire mot à mot, de tomber sur ça que je l'avais manqué avant. De telle manière. Voyez ça. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière, je l'avais noté sur l'écran, de telle manière que une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Savez-vous qu'ils auraient pu parler de la grâce d'une autre manière où personne ne viendrait au Seigneur? J'ai d'autres choses à dire cela. tout à l'heure quand on parle du serviteur de Dieu en conjonction avec la parole de Dieu, mais je voulais juste noter parce que c'était dans le tout premier verset, il parle d'une certaine manière plutôt que d'une autre manière pour que des gens en grand nombre et grecs et juifs croient. Et puis, notez que de suite, il y a de l'opposition. Et notez aussi la manière de l'opposition. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point. Alors j'ai déjà dit, ne pas croire, c'est pas simplement quelqu'un qui reste neutre. Il y a des gens qui pensent être neutres par rapport à la religion. Et ils ne sont pas neutres. Ils sont fixes sur leur neutralité, sur leur insistance de ne pas toucher ni ça ni ça. Mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se mettre sur ça. Ils vont tomber sur ça, ils vont tomber vers là, mais il n'y a personne qui est neutre par rapport à l'évangile. Et donc, j'avais cité le verset en Jean, en Marc 16, 15, la semaine dernière, « Ceux qui ont cru ont eu la vie éternelle, ceux qui n'ont pas cru ont eu la condamnation. » Sauvés ou condamnés. Écoutez, notre prédication, notre témoignage produit ou la vie ou la mort, mais pas une neutralité. Et nous étions morts avec beaucoup de personnes qui, leur témoignage envers nous était un témoignage envers notre condamnation parce que nous avons refusé. Et Dieu nous a permis de refuser et enfin de croire. Les personnes qui n'ont pas cru étaient des personnes qui avaient décidé de ne pas croire. Et c'est souvent le cas historiquement. Ce n'est pas généralement la grande foule qui rejette. C'est après les grands leaders, déjà opinionnâtres, déjà ayant fait une décision, déjà ayant senti menacés dans leur position de sécurité, financièrement, religieusement, et comme des dirigeants du peuple, c'est quand eux entrent dans la situation, ils peuvent manipuler la foule pour que la foule... C'était le cas avec Jésus. Les gens aimaient Jésus. Tout où ils s'étaient allés, les gens l'ont entendu avec joie. Mais c'était le système, systématiquement, des religieux qui circulait entre, qui semait les doutes, qui semait des arguments, qui ne pouvait pas répondre, qui utilisait la logique qui est au-dessus de la tête des autres personnes, ne soit pas comme des fous, hein. Pensez bien, puis voilà, 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas le Messie, c'est un trompeur, qui peuvent en relativement très court de temps, une semaine, quand les gens criaient Emmanuel, Emmanuel, Hosanna, Hosanna, béni soit le Dieu qui vient, le roi qui vient au nom de Dieu envers Jésus monté sur l'âne, et 8 jours plus tard, qui criait à haute voix en unisson pour sa, pas simplement sa mort, mais sa crucifixion. Quelque chose de très 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 terrible. Donc, les Juifs ne crurent point, mais ils excitèrent et les esprits des païens contre. Et quels sont les effets de l'évangile? Bon, verset 4. La population, nous lisons, de la ville, ce que vous voyez à votre droite, c'est directement dans la parole de Dieu, ce n'est pas, c'est le Louis II. La population de la ville se divisa. L'annonce de la grâce divise. Et ça, c'est incroyable. Pas de temps en temps, c'est toujours une épée qui perce et qui pénètre et qui divise. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de neutralité. Bien sûr, il y a certaines familles qui sont moins méchantes que d'autres par rapport à leur acceptation. Il y a certaines qui se présentent. Tant pis pour lui, il est un agent libre, il peut faire ce qu'il veut, ça ne me dérange pas du tout. Des positions sont prises. Et quand il est exigé qu'on se démontre la position, ça va sortir, plus tôt, plus tard. Luc chapitre 12, c'est un passage où le Seigneur à partir du verset 51, Luc 12, 51, « Pensez-vous que je sois venu, dit Jésus, pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre ?» Mais il me semble que les anges criaient ça, chantaient ça. La paix sur la terre quand Jésus arrive, et Jésus semble dire le contraire. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non! Vous disent, mais la division. Car désormais cinq dans une maison sera divisé, trois contre deux, deux contre trois. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Ne l'avez-vous pas vu ça? Dans votre vie chrétienne? Sinon pas dans votre famille, dans les familles de vos amis? La paix de Dieu, la paix avec Dieu, oui. La paix entre les hommes qui ont aussi fait la paix avec Dieu, oui. Mais la paix dans une communauté qui est déterminée d'être hostile à la grâce, à la parole de la grâce, non. Et ce qui semble être paradoxal, oui, mais attention, on est dans la France, on est en France, où maintenant tout est toléré. Mais on a le droit de voir de quoi ce qu'on veut. Et maintenant, on peut sortir dans les rues. Attention, est-ce qu'on peut sortir dans les rues? Et maintenant, on peut témoigner à n'importe... Attention, est-ce qu'on peut témoigner à n'importe qui? La loi de la tolérance doit forcément éliminer la foi chrétienne, si ça aboutit jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne est intolérante. Vous devez croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ seul est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Et si vous le suivez de marche après lui, vous aurez la lumière. Mais si vous le rejetez, et si vous pensez rester neutre, vous n'êtes pas neutre. Vous allez marcher forcément dans les ténèbres. Et vous allez terminer par prendre position contre Christ. Et si jamais il marche pendant 30 jours sur la rue Sainte-Catherine pour prêcher ce qu'il prêchait, au bout de... Plus avant cela, vous serez... Si vous avez pris une position neutre de tolérance, vous serez parmi ceux qui vont crier pour sa crucifixion. Parce que la tolérance ne peut pas continuer en étant marié à la foi chrétienne. Donc, Jésus disait cela. Les Romains étaient très tolérants. Les Romains étaient fiers de leur foi, de la religion, de la liberté de la religion. À condition que tu ne remplaçais pas le empereur avec votre divinité. Votre divinité, à côté de la sienne, un tout petit peu en dessous, toléré. Mais au-dessus, non toléré. Et c'était cet système, ce cosmos qui a décidé de brûler pendant deux siècle des chrétiens au bûcher parce que le système tolérant ne pouvait pas tolérer la foi chrétienne qui ne peut pas tolérer l'absence de foi en Christ. Chers amis, le christianisme qui se recule jusqu'à ce que on est comme les autres, hein, n'est pas le christianisme du tout. Ce n'est pas du tout la foi chrétienne. Et c'était constamment le cas qui est vu dans notre texte. La population se divise et la population va toujours se diviser parce que l'épée de l'évangile, de la grâce, divise. Dans votre famille, c'était probablement le cas. Les dieux sont venus sous une forme humaine, sont descendus sur nous, ceux qui cherchaient. Les juifs gagnèrent la foule, ils ont lapidé Paul, nous voyons dans verset 19, c'est incroyable, les mêmes personnes qui voulaient l'adorer, terminaient par lapider, c'est pour ça que j'ai mis au début, adorer et lapider, les mêmes personnes qui ont été adorées, ont été lapidées. La parole de Dieu est toujours une présentation de la grâce de Dieu, toujours opposée, et va toujours avoir des effets à 100% dans cette direction ou à 100% dans cette direction. Il n'y a pas de neutralité. Et puis, voyons quelque chose en ce qui concerne le serviteur de Dieu. Je reviens à la première chose que nous avons vue. J'ai dit que j'allais revenir. Ils parlèrent de telle manière que c'est intéressant que plus que vous étudiez le personnage de l'apôtre Paul, que Paul était quelqu'un qui était très 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 formé dans sa foi. Il était quelqu'un qui avait les dons de logique. Les épîtres de Paul sont des argumentations. Il présente sa proposition, il défend logiquement, divinement, bibliquement, sa position. Très capable de fermer la bouche de qui que ce soit. Très capable d'entrer dans un débat avec Socrate, qui malheureusement est déjà mort, il y a 250 ans avant, ou Platon ou les autres, et terminer par fermer leur bouche. Je crois que c'est ça qui lui avait donné très beaucoup de crainte. Il n'avait sans doute pas de confiance en lui-même pour dire « Dieu m'a donné ce don, je peux écraser rhétoriquement l'opposition à gauche et à droite pour que tout le monde devienne chrétien de nom. » Je crois qu'il était capable de faire ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, regardez si vous voulez avec moi ou écoutez sinon. Pour moi, frère, verset 1er, quand je suis allé chez vous, je ne suis pas allé avec une supériorité de langage. Ah, il aurait pu. Ni de sagesse. Il est en train de parler de la sagesse philosophique du monde. Philo veut dire sagesse, philosophe. Non, phil, aime, amour. Zoph, sophos, sagesse. L'amour de la sagesse. Un philosophe, il aime la sagesse. Je ne suis pas venu comme un philosophe. Quand je suis allé chez vous pour annoncer le témoignage de Dieu, pas la philosophie chrétienne, mais le témoignage de Dieu. Parce que, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous aucune autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Pourquoi ? De peur que ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » J'aurais pu rentrer à la maison et puis Barnabas s'est dit, « Waouh, Paul, tu l'auras eu !» Vous voyez comme ils avaient les bouches fermées. Oh, et Paul aurait commencé à pleurer et dire, « J'ai complètement raté. Apparemment, j'étais dans la chair. » Ce n'est pas à dire qu'il ne raisonnait pas. Ce n'est pas à dire qu'il n'a pas utilisé la bonne logique. Au contraire. Il l'a fait, mais il avait peur de se mettre sa confiance en lui-même. Et ça ne partage pas la démonstration de l'esprit. La démonstration de l'esprit, tranquille ou bruyante, ne se mélange pas avec la confiance dans la chair. Et ça, c'était quelque chose... Donc, mais de toute façon, je reviens à cette idée que nous voyons, et je veux que nous voyons comment l'apôtre Paul... Rappelez-vous que quand Paul était à Antioche Antioche de Pisidie, il commençait par parler aux Juifs, parce qu'il entrait dans le temple, et quand il est allé Iconium, il entrait dans le temple. Maintenant, il est à Lystre, quelques versets plus loin, à verset 8, il est à Lystre. Apparemment, il n'y avait pas de... synagogue. Un seul temple à Jérusalem. Synagogue par des centaines, peut-être des milliers. Partout, dans les grandes villes, beaucoup de synagogues. Synagogues de quartier. Mais il entrait donc dans la synagogue. Et il n'y avait pas synagogue à Lystre, apparemment. Donc il commence à prêcher. À Antioche, il avait systématiquement commencé par Abraham et montré avec 15 verbes. Rappelez-vous les 15 verbes? 15 verbes. Dieu a fait ça. Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Dieu vous a fait entrer dans le pays du Canaan. Dieu a fait tuer 7 nations devant vous. Ils ont aussi travaillé, bien sûr. Mais Dieu a fait ça. Ils raisonnaient avec ce message. Ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Mais à Lystre, des personnes ne connaissent pas ça du tout. Ils n'ont pas un Ancien Testament. Donc, ils commencent à prêcher Christ. Et il ne fait pas comme il faisait avant. Il y a cet homme, d'abord, un homme boiteux de naissance, qui n'a jamais marché, donc apparemment il est un homme assez maturé, peut-être une quarantaine d'années, on ne sait pas, un homme qui était connu par tout le monde sans doute. Et quand il prêchait, Paul comprenait, cet homme était en train de saisir ce que je suis en train de dire. Et Paul regardait, il fixa les yeux sur lui, dit. Sans doute il disait, voici une occasion pour Dieu de montrer sa puissance pour qu'ils croient. Ils avaient eu beaucoup d'imposteurs qui venaient prêcher ceci, cela, des magiciens, des sorciers, plein de choses comme cela. Alors, la Bible dit, c'est étonnant, Paul n'a pas prié, Paul n'a pas évoqué le nom de Jésus-Christ, Paul n'a pas demandé à l'homme s'il voulait être guéri, Paul n'a pas, il n'a fait rien du tout, il a simplement donné un ordre percutant à une voix haute, et puis c'est tout. Il dit, verset 10, d'une voix forte, lève-toi, doigt sur tes pieds. 1, 2, 3, 4, 5 mots. Lève-toi, doigt sur tes pieds, 6 mots. C'est tout. Il se lève d'un bond et marche. Comment savoir si des gens, si vous avez 3 personnes qui prêchent 3 choses, j'aurais plus tendance de croire quelqu'un qui fait lever les morts ou qui fait marcher des boiteux que quelqu'un qui juste partage sa philosophie. Et nous savons qu'il y a certains dons qui n'existent plus maintenant, mais pendant le temps apostolique, ça existait parce que la parole, le message du salut n'a pas été écrite noir sur blanc. Il fallait qu'ils comprennent. Paul était un qui que ce soit. Il était quelqu'un de l'extérieur qui voulait encore vendre une certaine philosophie. Ils avaient l'habitude de ça. Dieu a permis, la Bible dit, que Dieu, verset 3, que Dieu restait avec eux, ils appuyaient sur Dieu qui témoignait par des prodiges et par des miracles. Il n'y a pas des gens qui font des miracles aujourd'hui. Dieu peut faire des miracles et il fait des miracles. Des petits et des grands. Mais il y a, méfiez-vous que quand quelqu'un dit, attention, il y a ce monsieur ou cette dame qui a le don de miracle, méfiez-vous de cela. Cela est parti. C'était utilisé à plusieurs reprises. Dieu a dit, les apôtres et ceux qui étaient attachés aux apôtres au début étaient doués pour pouvoir faire cela. Pour, à chaque fois, sans exception, pas parce que la personne est malade, a besoin d'être guérie, c'était assez rare qu'il utilisait ce don, mais parce que la parole de Dieu est en train d'être menacée et doit être poussée un peu plus loin par un miracle que les gens puissent voir. Et Jésus les utilisait, les apôtres les utilisaient, et à part deux ou trois autres personnes attachées aux apôtres, nous ne voyons pas qu'ils utilisaient cela. Et en plus, c'était assez rare, même à l'époque. Paul disait en Philippiens, je crois que j'ai laissé mon ami malade. Maintenant, j'oublie l'endroit. Il n'a pas guéri. Il n'a pas pu guérir beaucoup de personnes. En ce moment, Dieu disait, il faut que tu fasses. Et plus tard, quand il verset 14, quand il déchire le vêtement parce que les gens voulaient se faire Dieu de ces personnes, je vais expliquer ça dans un instant, il déchirait le vêtement, il disait, non, on est comme vous, on a la même passion, la même nature que vous, il ne faut pas que vous nous adorions. Et puis regarde comme il raisonne. Il raisonne ce que les théologiens utilisent maintenant, il disait, les preuves téléologiques. C'est-à-dire, il argumente un créateur par dessein. Nous savons que Dieu existe à cause de la capacité d'observer ce qu'il a créé, qui est une argumentation très très forte quand même. C'est ce que Paul décide d'utiliser avec ses Grecs. Il n'a pas parlé de l'Ancien Testament. Il n'a même pas mentionné du tout. Il a dit, « Oh, homme, verset 15, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et nous apportons une bonne nouvelle, et nous disons, renoncez les choses vaines, ces choses vaines. » Quelles choses vaines? Les choses qu'ils sont en train de faire. Ils sont en pleine fête maintenant. « Pour vous tourner vers le Dieu vivant. » Qui est le Dieu vivant? Mais il est celui qui a créé le ciel. Regarde, la terre, la mer. Tout ce qui se trouve, c'est le Dieu qui, depuis des âges passés, a laissé les gens suivre leur propre voie, malgré mauvaise. Il n'a pas cessé de rendre témoignage. Il n'a pas cessé. Ça fait Romains chapitre 1, n'est-ce pas? Les gens qui savent. Le témoignage de la création est si puissant que personne n'est excusable s'il dit « personne ne m'a envoyé l'évangile ». Personne n'est excusable. Il regarde à travers ce que nous appelons la nature, mieux appeler ça la création. Il regarde la création, il écoute les oiseaux et il voit la nature, si vous voulez. Mais il refuse de penser autrement que ça, c'est le résultat d'une force impersonnelle, non intelligente, etc. Mais il rend témoignage 1000 fois par jour en faisant du bien, en vous dispensant du ciel la pluie, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en abondance, en remplissant vos cœurs avec joie. Vous êtes plus souvent gai que misérable. Si, vous pleurez des fois, mais vous pleurez moins que vous rigolez, normalement. Ou vous pleurez moins que vous êtes à l'aise. Vous êtes plus en sans peine qu'avec peine. Alors, même ça, c'est une argumentation qu'il aurait pu connecter. Abraham, David, ça ne le dit rien du tout. Méthode du croyant. Et nous, en tant que chrétiens, nous devrions être sensibles. Nous sommes dans un âge post-chrétien, si vous voulez. quand j'étais jeune, surtout aux États-Unis, tu peux parler avec n'importe qui et assumer que cette personne avait une certaine base plus ou moins chrétienne. Bon, il n'est peut-être jamais allé à l'église, mais il avait entendu assez de choses qu'il y a une certaine base. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer depuis le début la création, etc. Ce n'est plus le cas, même pas aux États-Unis, qui se voit comme un pays chrétien, par certaines, même et certainement pas en Europe. On a plusieurs générations maintenant de ceux qui s'éloignent de l'évangile pour qu'ils ne savent rien du tout. Ils ont la même mentalité superstitieuse que ces gens. C'est plus sophistiqué, sous couvert d'un mot darwinisme, par exemple. Mais ce sont les mêmes superstitions, et puis, d'une autre manière, un rejet, pardon, sa résilience, ou bien, il restait, le serviteur de Dieu, et j'avais utilisé le mot père, continue, persévérer. Sa persévérance. Ces gens, Paul, étaient en danger. Quand je parle, je terminais par employer le mot résilience, parce que quand vous voyez ce qui s'était passé avec l'apôtre Paul, ils sont chassés de la ville. Enfin, ils sont, pardon, verset 2, la foule est excitée contre eux. C'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Il y a la tension dans l'air. Et la persécution commence, verset 2, mais il reste. Et le mot traduit « cependant », c'est un mot qui serait mieux traduit « donc ». C'est pas malgré que, ça c'est déjà bien, mais c'était à cause d'eux. À cause de cela, apparemment, ils avaient décidé, ils ont besoin de plus de formation, de fondation, parce que quand nous partions, ça va être très difficile pour eux. Mais je voudrais que vous voyiez aussi un peu plus loin par rapport à leur résilience, surtout l'apôtre Paul, quand il est lapidé en verset 19, lapidé, jusqu'au point, tout le monde pense qu'il est mort, même les disciples. La preuve, ils sont debout. Paul est là, il est mort. À quoi ça sert de chercher? C'est pas la peine d'appeler les SAMU. C'est trop tard. Il est mort. Et puis, nous lisons, il se lève. Il n'a pas dit, oh, donne-moi un coup de main. D'un coup, il se lève. Il rentre dans la ville, même ville, où il venait d'être lapidé. Il continue. Et le lendemain, je vous ai déjà souligné cela, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et ça, c'est une vingtaine de kilomètres. Mais nous lisons aussi que des disciples prenaient des précautions par rapport à leur vie. En verset 5, ayant appris d'un mouvement pour les outrager et les lapider, ils se réfugièrent à l'Iconie. C'est-à-dire, parfois ils fuient, parfois ils ne fuient pas. On peut juste dire ceci. Paul avait le courage de l'esprit, mais il n'était pas fou non plus. Il savait quand il devait ne pas être présent, et sans doute savait l'esprit qu'il avait dirigé de ne pas être là. Mais il y a des moments où il faut fuir pour préserver notre capacité de continuer notre travail. Il y a d'autres moments, il y a beaucoup de missionnaires, il y a beaucoup de gens à travers les âges, quand la révolution arrive, quand il y a des révoltes, quand il y a les tueries qui se font dans le pays, qui refusent de bouger, qui perdent leur vie, et ça c'est la volonté du Seigneur. Il y a d'autres qui décident, il vaut mieux que je parte, que je revienne l'année prochaine, et on est critiqué pour rester, on est critiqué pour ne pas rester. Et c'est le Seigneur qui doit décider à chaque fois. Et c'était leur cas. Ils prenaient des précautions, mais ils étaient soutenus sur quelque chose surnaturel. Entièrement convaincu par le Saint-Esprit, ils savaient qu'ils étaient immortels jusqu'au moment, enfin, ils étaient immortels, ils ont la vie éternelle. Où ça termine ici, dans le corps, ça va continuer quand même pendant toute l'éternité et ça va terminer dans le corps. Que ce soit quelques années plus tard ou quelques années avant, peu importe. Que je meure un peu jeune, que je meure un peu âgé, tout est relatif par rapport à l'âge. D'ici 10 millions d'années, que ce soit à 50 ans que je meure, que ce soit à 80 ans, c'est imperceptible. C'était leur mentalité. Ils prenaient à la légère la qualité et la valeur de la vie. C'est-à-dire, ils prenaient leur travail de partager la parole de la grâce très sérieusement. Et ils avaient entière confiance en Dieu que si Dieu dirige, Dieu protège. Et il n'y a personne qui puisse me toucher un peu. À moins que ça c'est dans la volonté de Dieu pour que l'évangile soit répandu et pour que le nom de Christ soit soutenu. Et je vais terminer avec cette dernière pensée. Le péril des dons. Je voulais que vous vous mettiez un tout petit peu dans la situation où, à partir du verset 11, à la vue de ce que Paul leur avait fait, la guérison de cet homme boiteux. La foule éleva la voix et dit en langue laconienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils n'ont pas compris la langue. Sans doute, pendant un certain moment, mais qu'est-ce qui se passe ici? Les gens, ils sont en train d'aller à gauche, à droite, ils viennent avec des fleurs, et puis, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, ils comprennent. Parce qu'ils ne comprenaient pas leur langue. À un moment donné, ils comprennent. Je veux que vous écoutiez à quelques faits historiques pour que vous puissiez comprendre pourquoi les gens ici ont agi de cette manière. Jupiter, Zeus, lève-toi s'il te plaît et lire ça. Les mots sont petits, mais c'est trop petit pour moi. Tournez vers tout le monde. Complètement pour qu'ils t'entendent très bien. Écoutez bien.
Cette action étrange des habitants de l'Istre avait sa source dans le folklore local. Selon la tradition, les dieux Jupiter et Mercure avaient un jour visité l'Istre incognito en demandant l'hospitalité. Tous les habitants avaient refusé de les accueillir, à l'exception d'un couple de vieux paysans, Philémon et Baucis. En guise de vengeance, les dieux avaient noyé la ville sous les flots d'un déluge. Ils avaient cependant épargné les deux vieux, transformé leur humble chemin en temple et les y avaient établis en tant que prêtres et prêtresses. Décidés à ne pas répéter l'erreur de leurs ancêtres, les habitants de l'Istre s'empressèrent de manifester leur bonne volonté à l'égard des apôtres qu'ils prenaient pour Jupiter et Mercure.
J'espère que vous écoutez bien. Alors, il fallait savoir. Bon, on va dire ça, c'est des superstitieux, puis on continue à la prochaine chapitre. Mais quand on connaît un peu, on peut le placer historiquement dans leur contexte, hein, ces peuples, ils s'inquiétaient parce que ces deux dieux qui s'étaient venus il y a des années passées, comme des personnes simples, ils ont été refusés l'hospitalier, et puis jusqu'à ce qu'ils ont trouvé ce couple, Philémon et Bacchus, qu'ils ont hébergé cette personne. Ils avaient exterminé toute la ville, sauf ces deux personnes qui sont devenues princes et princesses dans le temple de Jupiter. Ils ont promis de revenir et faire la même chose. Et ils ne voulaient pas se tromper cette deuxième fois. Donc, quand Paul dit « Lève-toi, marche !» Ça choque. Ils sont venus. Il faut absolument qu'on ne les déplaise pas une deuxième fois. Ça risque d'être pire. Et donc, on a Paul et Barnabas. Peut-être il y a Barnabas qui dit, mais il faut que l'arrêt... Paul, non, écoute, ça peut nous arranger. On va en profiter. Ils sont... On ne va pas les offenser, hein, ils sont déjà... La fête est déjà déclenchée. Et vous allez abîmer la fête, en plus, s'ils nous adorent, bon, plus tôt ou plus tard, on va leur dire qu'on n'est pas des vrais dieux, mais pour l'instant, on peut monter dans leur adoration, ils vont nous aimer beaucoup, et puis on peut prêcher l'évangile, pourquoi pas? Ils n'ont pas fait ça. Mais ils auraient pu. Ils auraient pu, et il y a des gens qui font. À travers l'histoire, nous lisons des gens qui se lèvent orgueilleusement au-dessus des autres personnes, à cause d'un don qu'ils reçoivent, à cause d'une capacité que des autres ne l'ont pas. Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Il n'est pas marqué ici que Paul et Barnabas étaient tentés. Il n'est pas marqué qu'ils ont lutté. Je ne crois pas qu'ils ont été tentés. Mais ça aurait pu arriver plus subtilement d'une autre manière. Il y a toujours des gourous à gauche et à droite qui mènent les personnages vers eux-mêmes. Et Paul et Barnabas tout de suite déchirés. Leurs vêtements, pas juste dire, oh, écoute, le Seigneur nous a utilisés, mais c'est pas vraiment nous, mais attention, nous sommes ses instruments, sois gentil avec nous. Ne même pas ça. Déchirer les vêtements pour se présenter comme le bas de l'humanité. Afin que des gens ne leur adorent pas. Vous savez, dans l'histoire, les anges, sont déçus à cause de ça. La nuit avant la crucifixion de Jésus-Christ, les disciples étaient pris dans une dispute qui sera le plus grand dans son royaume. Roi après roi après roi après roi en Israël et en Juda se sont levés, se sont vantés, ils ont pris avantage de leur position. En chapitre 12 que nous avons étudié ensemble, Hérode, parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, a été attaqué par une maladie et au bout de quelques jours, il est mort. La Bible dit, parce qu'il refusait, il acceptait la gloire pour lui-même. Il est très, très facile d'accepter la gloire pour nous-mêmes. Je sais qu'il y a des moments où je ne prêche pas bien. Et d'autres moments où je presse mieux. Je suis content qu'il y a presque personne qui dit « Robert, c'est un bon message. » Parce que ma tendance serait d'être d'accord avec toi. Et tout peut tomber dans l'eau. Parfois, je me sens vraiment pris par le Seigneur et je suis convaincu que c'est bon. Et ce qui est curieux, et chaque prédicateur, pasteur le sait, le moment où il veut juste sortir et se cacher par honte parce qu'il a mal parlé, il y a quelqu'un qui dit « Oh, c'était un bon message, le Seigneur m'a vraiment fait du bien à travers ce message. » C'est vrai? Oui, le Seigneur a sa manière de garder ses serviteurs humbles. Il y a des périls et en tant que chrétien, il y a une autre chose, sixième chose que je n'ai pas mis ici. Mais je parle de la nature éphémère de la popularité. Au début, vous avez vu adorer et lapider. Les personnes qui étaient adorées, même pas une semaine plus tard, étaient en train d'être lapidées et dégoûtées. Et en tant que chrétien, porteur de grâce, c'est plus susceptible à cela que d'autres. L'évangile attire. Dieu est amour. Il aime. Il peut résoudre n'importe quel problème. Oh, d'avoir un Dieu comme ça. Mais au bout d'un certain temps, assez courte normalement, on en a marre. est la même personne qui a été adorée pour avoir porté l'évangile et maintenant détestée d'avoir porté quelque chose qui ne lui intéresse plus. Et rappelez-vous, il n'est plus neutre. Il est contre. Et ça, c'est moi et vous, avant de connaître l'évangile. Et ça, c'est tout ce qui écoute votre évangile. Utilisez toutes les possibilités de logique, de parole, à condition que tout ça soit soumis à Dieu et que sa parole n'est pas compromise et que vous ne présentez un évangile flou, parce que personne ne peut pas se mettre en colère contre quelque chose qui est ambigu. Il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui sont ambigus exprès pour assurer qu'il ne fait pas brûler ou bouillir les eaux autour d'eux. Et c'est un danger et c'est une grande tentation chaque semaine quand on prêche l'évangile que nous compromettions en faveur de notre approbation devant les autres. Si c'est pour le pasteur, ou un missionnaire, ou un autre serviteur de Dieu, pour chaque faiseur de disciples. Même en tant que chrétien depuis quelques mois, vous avez déjà senti les moments où le Seigneur vous a utilisé de éclairer quelqu'un, et vous sentez, c'est bon, c'est moi qui ai dit ça. Et nous devons demander à Dieu, tous les jours, célèbre 7 fois par jour le verset que nous avons vu tout à l'heure pour équilibrer notre perspective très 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 capable de se tordre. Alors l'apôtre Paul finit leur travail. Il traverse avec Barnabas. Verset 26. Ils embarquent pour Antioche où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Fini. Ils venaient d'accomplir leur œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils racontent, ils demeurent longtemps, et puis ils vont partir en un prochain chapitre, un deuxième voyage.